Alléluia. Et moi, je dis gloire à Dieu. J'ai reçu même des messages de l'étranger. Je ne vais pas vous dire de qui, mais de quelqu'un qui vivait ici, qui est parti à l'étranger. Enfin, si quand même je vais vous dire, c'est Fatou, notre sœur Fatou. Et elle m'a écrit un message en disant, « Waouh ! J'ai vu le bâtiment sur Internet. Vraiment, le Seigneur vous a super béni. » Commencez avec 2 Timothée. Chapitre 3, versets 1 à 5, et une fois que j'aurai lu ce verset, je vous annoncerai le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 5. 2 Timothée 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles ou dangereux d'ailleurs. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là.
Ariko umenye yuko misi ya nyuma imisi iherezo hazoba ibihe bigoye kuko abantu bazoba bikunda gusa bakunda amahera bibona batukana batumvira ababyeyi baba intashima banegura iby'Imana bakunda badakunda babo banka kuzura baremenanya batigarura inkazi badakunda ibyiza abaguranyi abirandu ibirandamuke bakunda ibibahimbara bafise ishusho yo kubaha Imana ariko bahakana ubushobozi bwayo.
Il est dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles ou des temps dangereux. Parce qu'il va y avoir, déjà on voit quand même, on voyait ces choses. S'il vous plaît, est-ce que les enfants peuvent circuler tranquillement, merci. Merci, tranquillement. Donc, il y a ce genre, ces choses, des hommes égoïstes, amis de l'argent, etc., etc. Cela existe depuis que l'homme est sur terre. Amen. Amen. Mais il y a une escalade de ces choses. Il y a une escalade de ces choses, de ce genre d'attitude. Et on voit que la société dans laquelle nous vivons, que ce soit ici, et même peut-être pire ailleurs, est infestée par ces choses, par ces attitudes, des hommes qui sont égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Amen. On voit ces choses qui prennent de l'ampleur. Je me rappelle quand j'étais enfant et j'avais bien juré à cause de cela parce que ça me dérangeait. Je me rappelle quand j'étais enfant, les personnes plus âgées dans ma famille, moi j'avais peut-être 5 ans, 6 ans, les personnes qui avaient 75 ou 80 ans, qui n'arrêtaient pas de dire de mon temps, les choses n'étaient pas comme cela. En parlant de différentes façons de se comporter, des attitudes des êtres humains, quand on parle de respect des, des personnes plus âgées, quand on parle de respect des autorités, quand on parle de politesse élémentaire. Et je me rappelle, dans toute mon enfance, j'ai entendu toujours ces personnes plus âgées qui disaient « de mon temps, de mon temps ». Et moi, je me suis bien juré que jamais j'utiliserais cette expression. Mais ce matin, j'aimerais vraiment parler avec vous d'un sujet qui concerne tout le monde ici. C'est l'éducation des enfants. Parce que peut-être que vous avez des enfants, donc ça vous concerne. Peut-être que vous n'en avez pas encore, mais ça vous concerne tout autant. Parce que quand on ne sait pas, quand on ne sait pas et qu'on ne connaît rien ou peu de choses dans ce sujet, c'est difficile d'éduquer des enfants. Amen. Je vous rappelle que l'Église, les pasteurs doivent donner des messages qui correspondent entre autres aux besoins afin d'aider. Parce que mieux vaut prévenir que guérir. Amen. Il y a un fait de société qui a commencé à se manifester vraiment sérieusement dans un premier temps en Europe et aux États-Unis suite à la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez, avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était rare que les femmes travaillent parce qu'elles restaient à la maison pour s'occuper des enfants, et c'était les pères qui travaillaient et ils arrivaient avec ce qu'ils gagnaient à faire vivre quand même la famille. Il y avait des femmes qui travaillaient, mais ce n'était pas la majorité. Aujourd'hui, on vit dans une société où le père travaille, la mère travaille, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Par contre, là où il y a une mauvaise chose, c'est qu'il n'y a plus personne pour éduquer les enfants. Parce que quand le père part au travail le matin, c'est tôt. Il rentre le soir tard et la mère pareil. Et encore ici au Burundi, la vie est quand même plus facile. Pourquoi est-ce que je dis que c'est plus facile? Parce que quand les parents rentrent du travail, ils n'ont pas besoin de faire les courses à toute vitesse, récupérer leurs enfants dans des garderies quelconques, préparer le repas, laver le linge et le repasser et faire le ménage et tout ce qui va avec. Donc ici, la vie est quand même plus facile. Mais on voit que les parents souvent ne réalisent pas qu'ils ne sont pas en train d'éduquer leurs enfants. Ils ont remis l'éducation de leurs enfants aux bonnes, aux grooms, aux écoles, en pensant que c'est eux qui vont faire tout le boulot. Sauf que ça n'arrivera pas. Il y a des années de cela, je me rappelle d'une dame qui prie ici, qui priait ici du moins, et elle avait des petits-enfants et elle aussi elle courait au travail le matin, elle ne rentrait pas toujours à midi, et le soir elle souvent elle était soit à l'église ou soit avec des amis. Et un jour sa petite-fille qui avait 2 ans à l'époque lui a dit quelque chose en Kirundi, je ne sais plus ce que c'était, mais ça l'a choquée. D'où est-ce que ma fille a sorti cette insulte? Quelque chose de grave. Et après avoir réfléchi un peu, il s'est dit, mais ça, ce sont mes travailleurs. Parce que quand les enfants sont à la maison, ils sont encadrés par vos travailleurs. Donc, qu'est-ce qu'ils vont recevoir? Une éducation de groom. Et au début, on ne le voit pas. Au début, on ne s'en rend pas compte. Mais avec le temps qui passe, c'est comme une vague, c'est tout un mouvement, parce que tout le monde est contaminé. Donc, de ce fait, parce que c'est plutôt vers l'Europe et les États-Unis que ces choses ont vraiment commencé, qu'est-ce qui se passe? Les enfants ne sont plus éduqués. On ne leur dit pas ce qui est bien, ce qui est mal. Est-ce que vous pensez que vos enfants le savent? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Je vais vous raconter une petite histoire. Vrai. Il y a quelqu'un qui est venu nous rendre visite il y a quelques années et qui venait d'Europe et il avait acheté des chocolats pour mes enfants. Et c'était des choses qui étaient bien emballées. Alors qu'il était à l'aéroport en train d'attendre, parce que vous savez, on attend longtemps à l'aéroport. Il y a un petit garçon, je
ne
sais pas, 5 ans, 6 ans, il vient le voir. Et il lui fait des visages, des faces, vous savez. Pour que la personne dise, oh, qu'il est mignon celui-là.
Et
il a dit, ok, t'es mignon. Et après il dit, tu me donnes un
chocolat.
Et il dit, je regrette, je ne peux pas t'en donner. Parce que c'est un cadeau que je veux faire à quelqu'un. Et après, l'enfant, il repart. Et après, l'enfant, il revient. Et il commence à tirer la manche. Donne-moi un chocolat! Donne-moi un chocolat! Et la personne lui dit, je t'ai dit non. Là, le ton monte un peu. Je t'ai dit non. T'es bien mignon, mais je t'ai dit non. Et l'enfant, je vous assure, je ne peux pas vous dire au micro ce qu'il a répondu. C'est la pire de toutes les insultes qui existent sur la terre. Très grossière. Très grave. Alors la personne lui a dit, bon, maintenant tu dégages. Et le père de l'enfant arrive furieux. Vous ne vous rendez pas compte? Comment est-ce que vous pouvez dire à mon enfant, dégage? Et l'autre lui répond, mais monsieur, votre enfant est impoli, il se comporte n'importe comment. Et l'autre après s'énerve encore. Et le premier conclut en disant, vous aussi, le deuxième conclut en disant, vous aussi, un jour vous avez été enfant. Et le premier qui répond, oui, c'est vrai. Mais j'ai des parents qui m'ont éduqué et qui ne m'auraient jamais permis d'avoir un tel comportement. Qui est-ce qui est responsable dans tout ce qui vient de se passer? Est-ce que c'est l'enfant? Non, parce que l'enfant ne sait pas. Qu'est-ce que les enfants savent? Ils savent ce qu'on leur apprend. Celui qui a été responsable, ça a été le père, parce qu'il n'a pas éduqué son enfant. Il ne lui a jamais dit, ne va pas demander des choses aux gens que tu ne connais pas. Sois poli, ne dérange pas les autres. Sache que tu es un enfant et qu'un enfant a une place et qu'il doit rester à sa place. Un enfant doit faire ce qu'on lui dit, etc., etc. Et ce sont des choses que vous, adultes, vous savez, parce qu'on vous a élevé comme ça, plus ou moins, mais quand même. Alors ne laissez pas vos enfants à la dérive, livrés à eux-mêmes. De ce phénomène de société qui fait que maintenant les deux parents travaillent, ils ne s'occupent plus vraiment de leurs enfants. Les enfants sont devenus les victimes de la télévision. Et je pense que pour ceux qui ont déjà un certain âge, vous avez pu constater que à la télévision, dans les films, en fait on prêche le péché, les mauvais comportements, le mensonge, le vol, la violence, l'adultère. Et depuis quelques années, le grand sujet qui est prêché au travers de la télévision par le monde, par Satan, c'est l'homosexualité, c'est normal. On voit continuellement dans les films, des couples d'homosexuels qui s'embrassent, et ceci et cela. Et qui est-ce? Nous, si on voit ça, ça ne nous fait rien. Ce n'est pas parce que ça nous intéresse, mais nous avons notre position, nous avons nos idées. Mais quand un enfant voit ça, pourquoi est-ce qu'il va penser que c'est mal? Pourquoi est-ce qu'il va penser que c'est pas normal? J'entendais parler d'un exemple en France, ce qu'on appelle aujourd'hui les familles recomposées. Parce qu'un jour, elles ont été décomposées. Un jour, il y a un homme qui s'est marié avec une femme. Puis ils ont divorcé. Et ils se sont mariés chacun de leur côté. Le mari a pris une autre femme. La femme a pris un autre mari. Et ça fait comme ça qu'il y a toute une tribu d'enfants qu'on ne sait pas trop à qui ils appartiennent. Et eux-mêmes, ces enfants ont des problèmes d'identité parce qu'ils ne savent même pas qui ils sont. Et un jour, j'entends une histoire comme ça. Une famille où il y avait trois adultes et il y avait des enfants. En fait, ou même plus d'adultes d'ailleurs. Donc, le mari s'était marié avec une femme. Ils ont eu des enfants et ils se sont séparés. Mais après, ils sont retournés vivre ensemble. Non pas comme mari et femme, mais pour juste partager le même toit. Donc, la femme a amené un nouveau mari et ils ont eu des enfants ici, ils habitaient tous ensemble. Et le pire de tout, c'est que le mari n'a pas amené une nouvelle femme. Le mari s'est amené un nouveau mari. Et les enfants sont au milieu de tout cela. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils comprennent? Comment est-ce que ces passages de la Bible ne parlent pas à nos cœurs? Si nous ne faisons pas attention, nos enfants vont être influencés. Je sais que ces choses n'arrivent pas à ce point ici, mais si ce n'est pas ça, ce sont d'autres choses qui sont tout autant mauvaises. Les enfants ne naissent pas en sachant ce qui est bien de ce qui est mauvais. Pour certaines choses, ils le savent un peu, mais un enfant ne sait pas. Il ne sait pas et il a besoin. Il a besoin de ses parents. Et nous avons une grâce extraordinaire, c'est que nous connaissons Jésus et Dieu nous a confié des enfants. Est-ce que vous savez que vos enfants ne sont pas les enfants, vos enfants? Vos enfants ne sont pas à vous, ils ne vous appartiennent pas. Les enfants appartiennent au Seigneur. Amen. Il nous les a donnés, mais le vrai propriétaire de nos enfants, c'est Jésus. Ce n'est pas nous. Et nous aurons des comptes à rendre sur la façon dont nous éduquons et dont nous avons éduqué nos enfants. Vous savez, c'est trop facile de dire « Oh, cet enfant, il est difficile ». Parce qu'il y a des enfants qui sont un peu plus, ou même des fois beaucoup plus compliqués que les autres. Mais si Dieu t'a donné un de ces enfants-là, remercie-le de t'avoir fait confiance en te confiant une si grande responsabilité. Et si tu ne sais pas quoi en faire, si tu ne sais même pas comment lui parler ou l'éduquer, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu as le Saint-Esprit. Lui, il sait comment lui parler. T'as qu'à lui demander, plutôt que de pleurer, plutôt que de te lamenter, plutôt que de dire même des choses terribles sur tes propres enfants. Celui-là, c'est un moins que rien. Celui-là, c'est un imbécile. Vous savez qu'il y a des parents qui parlent comme ça de leurs enfants? Mais ce n'est pas un imbécile, parce qu'il a été créé à l'image de Dieu, tout comme toi. Amen. Amen. Lisons ensemble dans le psaume 78. On va lire du verset 3 au verset 8. Parce que on a défini un peu ce phénomène de société, la dégradation de la famille, des relations familiales, le manque d'éducation laissent les enfants faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Et quelque part, parfois, les parents se sentent coupables de ne pas s'occuper de leurs enfants, alors ils les laissent faire tout ce qu'ils ont envie de faire. Lisons ensemble donc le psaume 78. Psaume 78, on va lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 8. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle soit connue de la génération future. Des enfants qui naîtraient et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements afin qu'ils ne soient pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Amen.
Ntituzobihisha abuzukuru babo tuzobwira abigiye kizoza ishimwe gihoraho n'inkomezi ziwe n'ibikorwa bitangaje yakoze kuko yashimangiye igishinga ntahe mu ba Yakobo yashizeho igica icagezwe mu Isirayeli ico yageze basogokuruza ngo baze babibarire abana babo kugira ngo abigiye kizoza baze babimenye nibo bana bazovuka ngo nabo baze bahaguruke babibarire abana babo kugira ngo bizigire Imana kandi ntibibagire iby'Imana yakoze ariko ngo bitondere ibyagezwe byayo.
Le premier domaine dans lequel nous devons éduquer nos enfants, c'est dans la crainte de Dieu. Vous savez, la Bible dit du fait que nous sommes nés de nouveau, nous sommes sanctifiés, c'est-à-dire mis à part pour Dieu. Et nos enfants aussi sont sanctifiés. Donc la première chose que nous devons mettre en eux, c'est la crainte de Dieu. Et quand je dis la crainte de Dieu, c'est la définition de la crainte selon la parole de Dieu. La crainte de Dieu n'a rien à voir avec la peur, parce que l'amour parfait bannit la peur, la crainte. Mais c'est ce respect. Si vous voulez que vos enfants vous respectent, enseignez-leur le respect de Dieu. Amen. Parce que vos enfants doivent vous respecter. Ils doivent vous obéir. Et ce n'est pas avec des claques, des menaces ou des promesses que vous n'allez pas tenir que vous pourrez les amener à vous obéir. Mais c'est en leur enseignant la crainte de Dieu. Vos enfants sont à l'école du dimanche et c'est bien. Mais comme ça s'appelle, c'est l'école du dimanche. Et en plus, c'est l'école du dimanche matin. Ce soir, qu'est-ce que vous allez enseigner à vos enfants? Qu'est-ce que vous allez prier avec eux avant qu'ils aillent dormir? Quel conseil allez-vous leur donner? Vous savez, quand on a des enfants et quand on est proche d'eux, on est conscient de la phase dans laquelle ils se trouvent. Chaque enfant a des phases, de croissance et des phases aussi parfois où ils font certaines erreurs. Et quand on ne localise pas ces erreurs, eh bien ces erreurs vont devenir ancrés dans leur cœur et être de mauvaises habitudes. Vous savez, les mauvaises habitudes, elles n'arrivent pas du jour au lendemain. Ça commence par une petite chose, un petit détail. Et en tant que parent, tu dois être quelqu'un qui est capable de voir cela. Non pas pour mettre des claques à ton enfant, mais pour avec la sagesse de Dieu,
l'amener
à comprendre,
amen,
l'enseigner.
Vous
savez, un enfant peut comprendre, comprendre avec son cœur, et ça vous demande de développer une relation de confiance avec votre enfant. Je me rappelle un de mes enfants, quand il avait 4 ans, il n'arrêtait pas de mentir. Tout le temps, parce qu'il avait peur. Il avait peur de tous. C'était un enfant qui était extrêmement craintif. Et un jour, j'ai vraiment senti, alors qu'il n'avait que 4 ans, dans mon cœur de lui dire, tu sais, tu ne peux pas mentir comme ça. Ça ne plaît pas au Seigneur. Tu as vraiment besoin de demander pardon à Jésus parce que tu n'arrêtes pas de mentir. Si tu as fait quelque chose de mal, je préfère que tu me le dises plutôt que tu me mentes. Et pour être, pour, vous savez, parfois l'argument de conviction, je lui ai dit, si tu me mens, je te punirai deux fois plus que si tu me dis la vérité. Et si c'est une chose qui n'est pas grave, je te pardonnerai sans te punir. Mais si c'est grave, tu emporteras un châtiment. Et cet enfant, il s'est effondré. Il n'avait que 4 ans. Il s'est mis à pleurer. Et Seigneur, pardon. Seigneur, pardonne-moi de mentir comme ça. Et c'est ce jour-là qu'il est né de nouveau. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et vous, en tant que parent, vous devez comprendre où en est votre enfant. Parce que si je n'avais pas vu cela, ou si j'avais dit, oh, c'est pas grave, ce n'est qu'un enfant. C'est peut-être qu'un enfant, mais c'est grave. Cet enfant aurait grandi et serait devenu un fabulateur, un menteur chronique et certainement au bout du compte une mauvaise personne. Alors qu'au départ, les enfants ne sont pas de mauvaises personnes. Mais si nous ne sommes pas là pour leur dire avec amour, mais avec fermeté et sans aucun compromis, ne fais pas des choses qui déplaisent à Dieu. On doit leur enseigner la crainte de Dieu. Dieu doit être le premier dans ta vie. Tu dois tout faire pour l'aimer parce que c'est lui qui t'a créé. Tu dois tout faire pour lui plaire parce que Dieu est bon. Et quand on veut lui plaire, on fera toujours de bonnes choses et de grandes choses. Et c'est ça que vous devez mettre dans vos enfants. Et je vous assure que ça prend du temps. Une goutte après une goutte après une goutte, jusqu'à temps que leur vie soit remplie de la compréhension et de la crainte de Dieu. Je ne veux rien faire qui puisse offenser mon Dieu, parce que je le respecte et parce que je l'aime. Vous êtes capable de construire ce cœur et cette attitude dans vos enfants, parce que ça n'arrivera pas tout seul. Ça n'arrive jamais tout seul. Pour certains, on fait plus d'efforts, pour d'autres, on en fait peut-être un peu moins, mais ça n'arrive jamais seul. Parce que si nous ne faisons pas cela, eh bien nos enfants seront indociles, rebelles. Ils n'auront pas un cœur ferme et ils n'auront pas un esprit fidèle, ni vis-à-vis de Dieu, ni vis-à-vis de vous, ni vis-à-vis des autres personnes qui les entourent. Amen. Nous devons vraiment les instruire. Quand on lit le livre des Proverbes, si vous ne savez pas comment instruire vos enfants, vous pouvez vous inspirer du livre des Proverbes en l'adaptant, bien sûr, en l'adaptant au niveau de votre enfant et de sa compréhension, sa connaissance des choses. Lisons Proverbes chapitre 4, versets 3 à 6. C'est Salomon qui écrit cela. Il dit, j'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et me disait, Que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Acquière la sagesse, acquière l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas, elle te gardera. Aime-la et elle te protégera.
Ngo kuko nanje nabanye nabaye kuri data umwana nabungabungwa ndi nk'ikinege mu maso ya mama kandi data yaranyigishije arambarira ati umutima wawe ugumye amajambo yanje witondere amabwirizwa yanje ubone kubaho wironkere ubwenge wironkere uburyo bwo gutahura ntukibagire kandi ntugatere ibitugu amajambo y'akanwa kanje.
Amen. L'enfant ne sait pas par lui-même. Il a besoin de l'instruction de ses parents, jour après jour. Une instruction par rapport à Dieu, qui est Dieu, parce que nous sommes les guides de nos enfants jusqu'au jour où ils seront capables de prendre leur vie en main. Et nous pouvons les guider vers le Seigneur. Ça, c'est la première chose. Mais aussi, nous sommes leurs guides et nous sommes là pour les éduquer dans leur relation avec les autres. Je peux le dire parce que c'est une chose que j'ai vue avec les années. Il y a 20 ans de cela, généralement les enfants, quand ils étaient en présence d'adultes, ils se tenaient correctement, sauf vraiment si c'était des tout petits bébés. Les enfants se tenaient correctement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'on voit? On voit les adultes qui parfois se retrouvent entre eux et les enfants qui sont là, qui se chamaillent, qui crient, qui sont tout le temps en train de réclamer. Imaginez un petit peu dans un salon différentes personnes et le petit enfant qui a 4 ans qui vient déranger le vieux grand-père en disant « Donne-moi à boire, donne-moi à boire, donne-moi !» Alors la maman, elle regarde comme ça. « Oh, qu'il est mignon, mon petit !» Mais il y a qu'elle qui le regarde comme ça. Les autres se disent vivement que ça finisse, qu'on rentre à la maison parce qu'on en a assez. On a les oreilles cassées. Ce gosse, il est insupportable. Et qu'est-ce qui va souffrir? C'est l'enfant. Parce que l'enfant, il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas qu'il est insupportable. Amen. Il croit qu'il est mignon. Alors qu'il est insupportable et qu'il dérange tout le monde. Et quand il va grandir, s'il est habitué à avoir ce genre d'attitude, là, plus personne ne le trouvera mignon. Amen. Et il va se faire du mal parce qu'il ne va pas comprendre pourquoi. Fous-nous la paix un peu, là. Il ne va pas comprendre cela. Donc, vous savez, éduquer nos enfants dans le respect des autres, c'est leur ouvrir le chemin du bonheur. Parce que quand tu sais respecter les autres, tu respectes leurs émotions, leur volonté, tu les respectes et tu respectes leurs affaires, les autres vont t'aimer, n'est-ce pas? Quand on respecte les autres nous aiment. Amen. Quand on enseigne nos enfants dans le respect des autres, on leur ouvre le chemin du bonheur parce qu'ils seront appréciés. Ils seront aimés. Et les choses seront faciles pour eux. Alors que quand on ne leur apprend rien, ils ne savent rien. Vous savez, nous avons une terrible responsabilité que ce soit amener nos enfants à connaître Dieu, à aimer et respecter les autres, avoir un cœur travailleur au lieu d'un cœur paresseux. Vous savez, aujourd'hui, le problème de beaucoup d'enfants à l'école, il se résume en 3 mots. Paresse, tricherie, mensonge. C'est la vie de 80 quelque chose, je ne vais pas dire 99, ni même 95, ni même 90, ni même 82, ni même 80, parce que je ne sais pas, mais énormément d'enfants. énormément d'enfants. Et je vous assure qu'ils ne sont pas nés comme ça. Ils ne sont pas nés comme cela. Combien d'enfants, combien de jeunes se mettent à travailler la veille de l'examen ou la semaine qui précède l'examen? Parce que tout le reste du temps, ils ont été feignants. Et comme les parents sont au travail, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un percepteur. Ça se dit comment ici? Percepteur? Répétiteur. Un répétiteur. C'est ça? Un quoi? Un cours du soir. La personne qui vient faire les devoirs aux enfants. Je
ne
sais pas si c'est... Bon, enfin, bon, peu importe. Alors, vous prenez cette personne. Et vous savez ce qu'elle fait? Elle n'explique pas grand-chose. Parce que les trois quarts du temps, elle ne comprend même pas de quoi il s'agit. Et quand elle comprend, ou il comprend, il fait les devoirs à la place de l'enfant et après il rentre chez lui et c'est terminé. Et qu'est-ce que vos enfants ont eu comme bénéfice? Et après vous dites, mais d'abord tu ne travailles pas à l'école, en plus je paye quelqu'un pour te donner des explications le soir et tu as toujours d'aussi mauvaises notes, et c'est l'enfant qui prend tout dans la figure. C'est vraiment dommage. Amen. Donc, on ne suit pas les enfants dans le domaine scolaire, ni de près ni de loin. On attend que ce soit l'école qui fasse tout. Écoutez bien, je ne suis pas en train de condamner qui que ce soit parce que je ne sais pas, alors ça va. Et je sais qu'il y a des personnes qui ne sont même pas concernées par cela et je dis gloire à Dieu pour cela. Et si je suis en train de prêcher là-dessus, c'est pour aider ceux qui ont tendance à se reposer sur les autres. Tu rentres du travail, tu penses que les enfants ont fait leur devoir, qu'ils ont appris quelque chose alors qu'ils n'ont rien appris du tout. Et je connais des cas où les parents mettent leurs enfants, par exemple, à l'école française. Certains parents, et il y a des problèmes à l'école, parce que les enfants ne travaillent pas assez. Et le professeur essaye de dire aux enfants, et ce sont des familles d'inconvertis, donc ça ne vous concerne pas de toute manière. Votre enfant ne travaille pas à l'école. Et les parents, qu'est-ce qu'ils disent? Cette école est pourrie. Et ils donnent raison à leurs enfants. Et ça ne va pas les aider au bout du compte. Donc il y a le domaine de Dieu, le domaine du respect des autres, surtout des personnes qui sont plus âgées. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, mes parents, ils étaient très sévères. Très, mais vraiment très sévères. À l'âge de 5 ans, quand on devait aller quelque part et qu'il y avait une porte, j'avais pas du tout intérêt à te faire comme ça et de passer. Pas du tout. Je devais faire comme ça, tirer la porte et laisser passer les autres parce qu'ils sont plus grands. Aujourd'hui, on m'a déjà jeté au moins... Pas presque jeté par terre, au moins trois fois. Des enfants qui font... S'il vous plaît, éduquez vos enfants avant qu'on se casse une jambe. Amen. Lisons, on a parlé d'instruction, maintenant on va parler de correction. Et la correction, ce n'est pas mettre des gifles, comprenez-moi bien. On va lire ensemble Proverbe. Proverbe 29, verset 15. Proverbe 29, verset 15. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Verset 17. Châtie ton fils et il te donnera du repos et il procurera des délices à ton âme. 15 et 17.
Ngo inkoni n'indero nziza bicisha ubwenge ariko umwana apfa kurekera aho atetereza nyina. Murongo wa 17 ngo hano umwana wawe azokuruhura mbere azokunezereza umutima wawe.
Hébreu chapitre 12, verset 9 et 10. Hébreu chapitre 12, verset 9 et 10. C'est un symbole pour le temps présent. Attendez, je me trompe. C'est pas chapitre 9. C'est chapitre 12, voilà. En fait, j'étais en train de lire chapitre 9 au lieu du verset 9, voilà. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté.
Ngo kandi natwe dufise ba data b'imibiri baradukangira natwe tukabubaha none ntituzorushiza cyane kugororokera se w'imwemi tugahoraho kuko babandi badukangira iminsi mike nkuko bagomba ariko we adukangira ikigira ikimaze.
À cause de ce fait de société dont je vous ai parlé, les parents qui travaillent,
qui ne
consacrent pas du temps vraiment à leurs enfants, alors pour pouvoir un peu compenser, ils essayent d'acheter l'affection de leurs enfants. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit énormément dans les pays Europe et États-Unis. Les parents se sentent coupables de ne jamais être là. Donc, ils vont acheter des choses à leurs enfants pour acheter leur affection. Ils ne vont pas corriger leurs enfants parce que quand on corrige leurs enfants, ils pensent que leurs enfants ne vont plus les aimer. Je me rappelle d'une histoire que j'avais lue dans un magazine en France il y a longtemps. Un petit garçon qui avait 4 ans ou 5 ans et qui, c'était des histoires drôles, les mots d'enfant. Alors, sa maman l'avait puni ou lui avait mis une fessée, je ne sais plus, parce qu'il avait fait une quelconque bêtise. Et l'enfant était furieux. Vous savez, la correction, ça ne fait jamais plaisir sur le moment. L'enfant était furieux. Il dit à sa mère, « Et maman, quand je serai grand et que toi tu seras petite, c'est moi qui te mettrai une fessée. » Personne n'aime cela. Mais la Bible dit dans ce passage d'Hébreu, dans le verset 9,
«
D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés. » Châtiez vos enfants, corrigez-les et ils vous respecteront. Laissez-les faire tout ce que vous voulez. Ils ne vous aimeront pas davantage, mais ils vous mépriseront. Amen. Amen. La Bible dit nettement. Je vais vous parler très rapidement de trois personnes dans l'Ancien Testament qui n'ont pas élevé leurs enfants comme ils auraient dû le faire. Et les deux premiers, c'était vraiment une catastrophe. Le premier, c'est le roi David. Vous savez, David, c'était un homme qui aimait Dieu, qui était prophète, qui a reçu des promesses extraordinaires, qui a écrit des psaumes magnifiques. C'était un homme proche de Dieu. Il a été le plus grand et le meilleur roi d'Israël. Mais c'est un homme qui n'a pas su corriger ses enfants quand il aurait dû le faire. Et ça a produit un drame familial. Ça se trouve dans 2 Samuel chapitre 13.
Samuel wa kabiri,
on va lire ça rapidement. 2 Samuel chapitre 13.
Samuel wa kabiri,
il y a quelque chose qui se passe. Parce que, eh bien, attendez voir, c'est. Oui, 2 Samuel. Parce que David avait plusieurs femmes.
David avait plusieurs femmes.
Donc plusieurs enfants qui étaient demi-frères et demi-sœurs. Et je vais vous raconter brièvement cette histoire. On ne va pas analyser tous les détails, mais vraiment chez vous, lisez à partir du chapitre 13 jusqu'au jour de la mort de Absalom. Et ça va vous montrer quelque chose. Donc, David avait plusieurs femmes, plusieurs enfants. Et un de ses fils s'appelait Amon. Amon, et en fait, le fils Amon était amoureux de sa sœur qui était en fait sa demi-sœur, qui s'appelait
Tamar.
Et il va monter tout un plan pour obliger sa demi-sœur à coucher avec lui. En d'autres mots, il va la violer. Il va user de ruses. Et ensuite, il va la rejeter. Comme si ça ne suffisait pas de l'avoir déshonoré, il va la jeter. Et
Tamar
était la sœur d'Absalom.
Absalom,
il a tout vu. Il a tout entendu. On va lire le verset 21. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur.
Maze umwami Dawidi yumvise ibyo byose araraka cyane ngo kandi Absalom ntiyaba akigira icyo avugana na Amunoni ariko kibi yamukoreye kuko Absalom yaragiriye Amunoni urwango kuko yononye mushiki we.
Ce jour-là, je vous assure que ce jour-là, David a semé une énorme graine de destruction pour sa propre vie. Parce qu'il fut irrité. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Rien. Parce que s'il avait fait quelque chose, on l'aurait su. Il a peut-être dit quelques mots, mais il n'a pas pris des sanctions très claires vis-à-vis de Amon. Et il n'a pas obligé à ce que la sœur soit dédommagée d'une façon ou d'une autre. Donc, il n'a pas traité cette affaire familiale. Et il s'est seulement irrité. Et Absalom n'a rien dit. Il a gardé cela dans son cœur. Mais 2 ans plus tard, il a fait assassiner son frère Amon. Ça a pris le temps que ça a pris. Mais 2 ans plus tard, son frère est mort. Il l'a fait tuer. Déjà, à cause du fait que David n'a pas pris en main cette affaire, un fils est mort. Quelque temps après, donc Absalom prend la fuite, se cache loin de son père, et plus tard il va demander pardon. Mais l'affaire n'est pas réglée dans le fond. Absalom va demander pardon à David d'avoir tué Amon. Mais il aura toujours au fond de son cœur de la haine, notamment vis-à-vis de son père, et du mépris, parce que le père n'a pas traité cette affaire familiale. Vous savez comment parfois, quand on ne traite pas certaines choses en profondeur, on ouvre la porte au diable. Donc le temps passe, les années passent, puis finalement, David va pardonner à Absalom. Et Absalom va revenir. Il va revenir auprès de son père, etc. Mais il va faire la chose suivante. Sans que son père soit vraiment au courant, il va détourner le cœur du peuple de David. Il va détourner le cœur du peuple en prononçant des jugements sur les gens, entre les gens, en étant dans un compromis, faire plaisir, parce qu'il avait une idée en tête. Et l'idée qu'il avait en tête, c'était de chasser et de tuer son père, de chasser son père du trône. Donc, au bout d'un moment, Absalom, par toutes ses manipulations, arrive à un niveau où il est vraiment puissant. On peut le lire dans 2 Samuel chapitre 15, la deuxième partie du verset 12. La conspiration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Quelqu'un vint informer David et lui dit « Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. » Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem « Levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. »
Mujanama wa Dawidi ava mu gisagara ciwabo igoyi n'umwa kwinama y'ubugarareje irakora kuko abantu bagenda bagwirirana muri
Absalom. Donc là David est obligé de fuir. Vous savez, David c'était pas quelqu'un de lâche. C'était pas quelqu'un de peureux, c'était un homme de guerre. Fort et courageux. Il est obligé de partir, il est obligé de fuir. Et il va être poursuivi par Absalom. Et finalement, quand on finit l'histoire, c'est Absalom lui-même qui va mourir, qui va se trouver assassiné par un des proches de David. Et David d'ailleurs ne lui pardonnera pas et cet homme aussi sera tué. Il y a tout un enchaînement de meurtres parce qu'une affaire familiale grave n'a pas été traitée comme elle aurait dû l'être. Un autre, c'est Élie le sacrificateur. On lit l'histoire de ses fils qui s'appelaient Ophni et Phiné. Les fils d'Élie, ça se passe dans 1 Samuel, chapitre 2. 1 Samuel, chapitre 2. Verset 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers et ils ne connaissaient point l'Éternel. Et en fait, ils n'étaient pas en train de respecter le rituel des sacrifices. Parce qu'ils méprisaient ces choses, ça ne les intéressait pas. Le verset 17 le dit, ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel.
Ngo uko niko icaha cabo basore bacabaye igikomeye imbere y'Imana kuko bakengera ikimaze cyihe.
Lisons également le verset 22. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation.
Ngo nuko Élie yarageze mu zabukuru kandi yamayumva iby'abahungu biyo bagira Abisirayeli bose kandi bagasambana n'abagore bakora igikorwa ku muryango w'ihema ry'ibonaniro.
Et regardez un peu comment Élie va réagir. Il va dire à ses fils, verset 23, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, 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 mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel quand même. Vas-y, tu le dis avec la même intonation de voix.
Ati arabaja ati niki gituma mukora bene ibyo ko nama numva abantu bose babambarira ingeso zanyu mbi. Eka bana banje ibyo numva bavuga kuri mwebwe si byiza kandi muracumuza abantu buhoraho.
Ça vous rappelle rien? Aujourd'hui, quand quelqu'un fait quelque chose de pas bien, même quand c'est très grave, il faut lui parler comme ça.
Oh
non, alors vraiment, il faut pas faire ça. Ça ne me bénit pas, ça ne me fait pas du tout plaisir. Et le Seigneur va envoyer un prophète à Élie. On va lire ensemble dans quelques instants pour dire à Élie, vraiment je te félicite. Tu es quelqu'un de calme et de posé. Au moins tu as essayé de parler à tes enfants. Vraiment c'est bien Élie. Qu'est-ce que va dire le prophète? Verset 27. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit « Ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte dans la maison de Pharaon ?» Et il va le dire donc un certain nombre de choses par rapport à ce que qui est Dieu et ce qu'il a fait. Et on va lire la deuxième partie du verset 30. « Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel, et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge, et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. Lis-moi le verset 34.
Ku murongo wa 34 baravuga ngo kandi kizoba ku bahungu bawe bomi Ophni na Phiné hasi kizokubera ikimenye amenya icyivyo bombi bazopfira umunsi kuko bombi bazopfira umunsi umwe.
Voyez ici les fils n'étaient plus des petits enfants, mais ils n'étaient peut-être pas non plus à 50 ans.
Ils
faisaient des choses graves. Et le père ne le savait pas. Et quand il le sait, il ne prend pas de mesures. Il ne donne que des paroles. Vous savez, il y a un temps pour les paroles, et il y a un temps pour les mesures. Si Élie avait placé Dieu avant ses fils, il les aurait systématiquement, directement chassé du ministère, en disant, vous deux là, voilà ce que vous avez fait, allez vous asseoir là-bas, c'est terminé, je ne vous permettrai pas de blasphémer le nom de Dieu de cette manière, c'est fini. Mais il ne l'a pas fait, il a dit, oh, vous savez, ce n'est pas très bien, ça déplaît à Dieu. Et Dieu lui envoie un prophète. Mais apparemment, ça n'amène pas à Élie à changer, parce qu'il ne corrige toujours pas ses enfants. Et quelque temps après, Dieu va parler au petit garçon Samuel, un petit enfant. Et il va lui dire exactement les mêmes choses. Exactement les mêmes choses. Tes fils vont mourir parce qu'ils font des choses qu'ils ne devraient pas faire, qui sont très graves. Et lui, qu'est-ce qu'il va trouver à dire? C'est la volonté de Dieu. Que Dieu fasse comme il le veut. Pour élire ça, c'est un peu plus loin dans le chapitre 3. Là encore, si ces deux hommes sont morts, Phiné et Ophni et Phiné, s'ils sont morts, la grande responsabilité était sur le père qui ne les a pas éduqués, qui ne les a pas corrigés, qui ne les a pas empêchés de jouer avec un feu qui les a finalement tués tous les deux, qui les a finalement consumés. Un autre homme, d'ailleurs, on parle de Samuel. Samuel, c'est un homme qui, en grandissant, qui était vraiment le premier de l'ère prophétique. Mais vous savez, il était tellement absorbé peut-être par Dieu, par les choses de Dieu. En tout cas, il n'a pas éduqué ses enfants. On peut lire ensemble dans 1 Samuel, chapitre 8. 1 Samuel, chapitre 8. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abija. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Ce n'est pas la peine de le lire. Voyez, on voit. Il établit ses fils juges. Et ses fils sont corrompus. Et là encore, ce que Samuel aurait dû faire, c'est retrancher ses fils en disant vraiment je suis désolé, mais ce n'est pas possible. Vous êtes corrompus. Vous ne pouvez plus être juge sur Israël. Mais au contraire, il n'a rien dit. Et vous savez, Samuel n'a pas été directement responsable du fait que le peuple d'Israël a demandé un roi. Mais le fait qu'il n'a jamais corrigé ses enfants comme il aurait dû le faire a été un élément déclencheur. Parce que les anciens d'Israël, verset 4, tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama et lui dirent « Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. »
Baja irama kwa Samuel baramubarira teheraba urashaje kandi abahungu babo bafise ingeso nkizawe none rero twimikire umwami wo kuducira imanza nkayandi mahanga yose.
Donc on voit que Samuel n'est pas responsable du fait que le peuple d'Israël a demandé un roi.
Samuel rero swera fils
mais le fait qu'il n'ait pas éduqué ses fils et qu'il ne les ait pas repris comme quand il aurait dû le faire a été un élément déclencheur. Vous savez, ouvrez comme ça la porte au diable. Juste comme ça. Je vous assure qu'il va l'enfoncer et que vous allez vous retrouver écrasé et ne même pas comprendre la gravité des conséquences, des choses qui à la base ne semblent pas très graves mais qui peuvent avoir des conséquences désastreuses. Donc je vais finir ma dernière partie. Première partie, c'est instruire, les instructions paternelles et maternelles d'ailleurs, mais surtout paternelles. Est-ce que vous savez que les instructions paternelles sont au-dessus des instructions maternelles? Et en tant que femme et en tant que mère, je peux vous le dire, ce que dit le père est plus important que ce que dit la mère. Amen. Et ça n'a rien à voir avec un problème de féminisme ou d'égalité des sexes. Ça n'a rien à voir. Parce que le père est l'autorité. Il est l'autorité dans la maison. Et parfois, le père est une autorité inexistante. Et parfois c'est la mère qui est obligée de dire les choses. Et je vous assure que dans une famille qui marche avec Dieu et selon Dieu, que quand le père dit quelque chose, ça saisit beaucoup plus les enfants que quand c'est la mère. Amen. Je vous dis la vérité au nom de Jésus. Donc, les instructions paternelles. Deuxièmement, la correction. Et troisièmement, pour finir, on va parler de l'exemple. Lisons ensemble Proverbe 22, verset 6. On va parler de l'exemple. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Vous allez me dire, mais quel est le rapport entre ce verset et l'exemple? Parce que moi, je lis que ce verset nous parle d'instruction.
Et
moi, je suis en train de vous parler d'exemples. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre ne s'arrête pas à l'instruction verbale. Mais il y a une chose qui instruit vraiment beaucoup nos enfants. C'est notre exemple. C'est notre comportement. Si vous avez des enfants qui mentent continuellement, ils n'ont pas appris ça tout seuls. Ils ne sont pas nés avec. Mais ils l'ont peut-être vu dans la propre maison. Amen. Amen. Vous savez ce que nous faisons, que ce soit bon ou que ce soit mauvais, est un exemple que nos enfants vont suivre. Vous n'avez pas remarqué cela? Nous ressemblons, d'une certaine manière, à nos parents, ou du moins à ceux qui nous ont éduqués. Parce que peut-être que tu n'as pas été éduqué par tes propres parents, mais dans ton caractère, dans ta façon de te comporter, tu ressembles obligatoirement aux personnes qui t'ont éduqué, parce qu'ils sont ta référence. C'est eux qui t'ont montré la voie qu'il faut suivre. Et je vous assure que pour certains d'entre nous qui avons eu des parents qui n'étaient pas sauvés, ce sont des choses parfois dont il est difficile de se débarrasser. Amen. Difficile de se débarrasser. Si tu as eu un père qui n'était jamais présent, qui à chaque fois que tu t'approchais de lui pour regarder ce qu'il fait, ou pour lui poser une question, tu disais, ah, dégage, ton père te disait, ah, dégage, t'es dans mes pattes, là, tu me déranges. Et que tu as vécu ça pendant toute ton enfance, pendant toute ta jeunesse, toi-même quand tu vas devenir père, et que tes enfants vont venir te poser des questions, tu leur diras peut-être pas dégage, mais tu te sentiras pas à l'aise, parce qu'on t'aura jamais montré comment faire. Si tu as eu une mère qui jetait l'argent par les fenêtres, qui au lieu de gérer le budget familial en disant telle somme c'est pour ça, telle somme c'est pour ça, telle somme c'est pour ça, telle somme on met de côté et le ce qui reste là, eh bien ça sera pour nous faire plaisir. Vous savez, moi je n'ai pas eu des parents comme ça. Ils m'ont jamais rien appris. Et dans ma jeunesse, j'ai fait beaucoup d'erreurs pour ce qui concerne la gestion financière, parce qu'on ne m'a pas appris. Et généralement, personne n'a reçu ce genre d'instruction. Apprenez à vos enfants à tenir un budget. S'ils sont petits, tu leur donnes 500 francs d'argent de poche par semaine. Et tu t'arranges pour lui expliquer qu'il doit mettre peut-être 200 francs de côté. Et tu lui expliques 200 francs par semaine de côté. Ça va faire 10 400 francs à la fin de l'année. Et c'est comme ça qu'on instruit les enfants. Moi, j'ai eu des exemples contraires à cela dans ma propre vie. Et pendant de nombreuses années, j'ai dû en souffrir. Que ce soit la gestion de l'argent, que ce soit la façon d'être accueilli. On va reproduire cela. Amen. Et si nous-mêmes, nous avons de mauvaises attitudes, de mauvais comportements, nous allons planter ça dans nos enfants. On peut être un bon exemple, un exemple d'amour, un exemple de compassion, un exemple de personnes qui aiment Dieu de tout leur cœur, qui aiment leur prochain, l'exemple de personnes qui font un travail consistant et bien fait, ou ont peut-être un mauvais exemple, et ne dis pas à tes enfants de faire telle et telle chose si toi tu ne les fais pas en premier lieu. Amen. Que ce soit pour ce qui concerne le mensonge, pour ce qui concerne le vol, qui se concerne aussi les critiques, pour vous donner un exemple. Vous savez, les enfants ont des oreilles qui traînent partout. Vous avez l'impression qu'ils ne vous écoutent pas, alors qu'en fait, ils n'écoutent que vous. Vous avez déjà vu de vos enfants, quand ils sont petits ou même quand ils sont plus grands, ils sont devant la télé et vous, vous êtes un peu plus loin dans la pièce en train de parler d'autre chose. Et l'enfant, il n'a pas saisi le nom. Tu sais que, par exemple, tu sais que tel a eu un accident. Et l'enfant qui est plus loin là devant la télé va dire, qui c'est qui a eu un accident? Ils ne perdent pas une miette de ce que vous êtes en train de dire. Et si dans votre bouche il y a des critiques, qu'est-ce que vous allez faire d'eux? Des personnes critiques. Et quand on est critique, on finit par se mettre dans une position où on ne peut rien recevoir, ni de Dieu, ni des hommes, ni de personne. Amen. J'espère que ce sujet vous a béni. Amen. Acclamons le Seigneur. On va prier tous ensemble. Je vais demander au pasteur Olivier de bien vouloir venir.